La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, en son Fils Jésus, notre frère. Soyez les bienvenus ici, dans ce lieu de prière, ce lieu où nous allons pouvoir méditer la Bible ensemble, sur ce seuil de cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Je vous invite à chanter ensemble et à nous réunir dans la communion fraternelle avec le premier spontané que vous trouvez dans les psautiers. Louez le Seigneur. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans le pays. La génération des gens droits sera bénie. Il a dans sa maison des biens et des richesses, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les gens droits. Pour celui qui est clément, compatissant et juste, il est bon qu'un homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires équitablement, car il ne vacillera jamais. Le souvenir du juste dure toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, sa confiance est dans le Seigneur. Son cœur est inébranlable, il n'a pas de crainte, ses adversaires lui seront offerts en spectacle. Il fait des largesses, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à jamais. Sa corne s'élève glorieusement. Le méchant le voit, il est contrarié. Il grince des dents et se consume. Le désir des méchants disparaîtra. Après la lecture de ce psaume, je vous invite à chanter le psaume 33, les strophes 1, 2 et 5, dans le psautier. vous invite à vous asseoir. Écoutons à présent la volonté du Seigneur pour nous. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit dans son sermon, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous nous présentons devant Dieu, tel que nous sommes, avec tout ce qui peut nous séparer de lui, tout ce qui est si difficile à nous dans le respect de ses commandements. Nous nous présentons devant Dieu, tel le Fils prodigue, le Fils dit, en pensant à son Père qu'il avait quitté, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Que ces paroles soient nos paroles auprès du Père aujourd'hui. Le Père, voyant son Fils, dit « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le et mangez. Faisons la fête, car mon Fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Que cet accueil du Seigneur soit un accueil que nous recevons pour nous aujourd'hui, que la grâce de Dieu soit sur nous. Thank you. partageons maintenant une confession de foi. Je crois en Dieu, je crois qu'il nous a aimés le premier. Avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, il nous a aimés. Mieux qu'une mère, en espérance d'enfant, qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés, car nous sommes son espérance et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore et toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu en Jésus-Christ nous aime victorieusement avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec tous les calices, il combattra tous les combats, il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin, et à la fin, cette fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à entendre à présent le texte biblique d'aujourd'hui et je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, au seuil d'une nouvelle année, j'ai choisi de partager avec vous la lecture de l'Évangile de Jean, au chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence, en elle, était vie. Et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme, envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés, non pas de sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage. Il s'est écrié, « C'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tout reçu, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 90, les strophes 1, 2 et 3 dans le Louange et Prière. Nous prions ensemble. Seigneur, éclaire-nous au moment où nous lisons la Bible. Permets que ces mots anciens contenus dans un livre, dans une bibliothèque si ancienne, puissent être aujourd'hui un texte porteur d'espérance pour nous. Donne-nous, Seigneur, ta lumière aujourd'hui. Amen. Cette fin d'année 2018 nous porte instinctivement à penser le début d'une nouvelle année, d'un nouveau temps qui commencera le 31 décembre à minuit. Comme un chiasme temporel produit par le point de vue que nous adoptons sur notre propre existence, d'un côté le versant du bilan, de l'autre celui de la promesse. D'un côté, ce que nous réalisons du passé, et de l'autre, ce que nous pourrions avoir l'audace de réaliser dans le futur. Mais sur ces deux versants, il y a toujours du reste, de l'inaccompli, des déceptions, des prises de conscience trop tardives pour agir en conséquence. Peut-être 2018 nous a laissé quelques regrets. Et même sur les versants de la promesse, il y a l'illusion de pouvoir faire ce que l'on espère, en sachant que peut-être on n'aura pas le temps. La projection des possibles, toujours enthousiasmante et en même temps, une impossibilité de prendre en compte l'imprévu. N'est-ce pas toujours la même sensation quand nous nous adonnons à la relecture de notre vie en prenant un point de vue surplombant? Nous voyons très clairement ce qui aurait dû ou aurait pu être fait, ou aurait pu être dit, et nous nous promettons intimement qu'on ne nous y reprendra plus. Cette ruse du temps sur notre esprit nous conduit à retomber dans ses filets invariablement d'année en année. En effet, comment aurions-nous pu savoir, au moment même, ce qu'il fallait faire ou dire? Quand l'événement survient, on ne fait que ce que l'on peut. Le prologue de Jean est construit lui aussi en chiasme et reprend ce modèle paradoxal du temps en l'appliquant à la nature même de la foi. Une représentation du monde entre connaissance et ignorance, entre ténèbres et lumière, dit l'évangéliste. Même si le texte s'ouvre sur ces premiers mots, en arché en grec, au commencement était la parole, il n'est pas pour autant un texte chronologique. Ce n'est pas un récit qui est construit ainsi. Cet élan donné dès les premiers mots au poème qui nous pousse à le lire comme une progression continue vers un sommet, à la façon d'un psaume démonté lors des grands pèlerinages judéens, ce commencement créateur ne prend son sens que s'il est mis en rapport de miroir avec les derniers mots du texte. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Nous avons donc un commencement, comme dans le récit de la Genèse, et de l'autre côté, son pendant, personne n'a jamais vu Dieu. Le véritable sommet de cette pensée de la relation entre Dieu et l'homme, c'est le verset qui se trouve au centre du poème. Devenir enfant de Dieu. Comme une page repliée sur elle-même, le prologue se dévoile en une liturgie à deux mouvements. Ces deux mouvements convergent vers la pliure centrale, devenir enfant de Dieu. Là est le centre, le pli où la haute christologie de la communauté johannique se révèle. Avec Jésus-Christ, tout homme peut naître de Dieu et devenir son enfant. Est-ce une descente vers ce pli intime que fait en nous la foi? Descente d'un Dieu qui s'incarne dans la finitude de l'humanité, qui descend dans notre monde, qui passe de la divinité à l'humanité? Est-ce une montée sur le versant d'une montagne au sommet de laquelle l'humanité se hisse au rang de Dieu en le glorifiant et en entrant ainsi en communion avec lui? Impossible de le dire, impossible de choisir entre ces deux mouvements concomitants. C'est sans doute là le génie de ce prologue qui ne choisit pas entre ces deux réalités spirituelles, mais les déploie dans le même hymne à la parole. L'évangile de Jean se donne comme programme de révéler la puissance de la parole. Une parole qui fait naître, une parole qui proclame et ça existe. Une parole performative, reprenant le motif du récit de création en 7 jours et mettant en son centre l'homme croyant, désireux d'une nouvelle naissance, d'une vie libérée de la glaise adamique, affranchi de ses incapacités à comprendre le projet de Dieu pour lui. Voilà le programme de ce poème, de cet hymne à la parole. Accéder à la volonté de Dieu pour nous. Anticipant l'entretien de Jésus avec Nicodème, venu dans les ténèbres pour faire la lumière sur sa condition d'homme croyant et qui apprendra auprès du Maître ce que c'est que naître de nouveau, le prologue nous parle d'une parole qui crée. Mais à la différence de la création dans la Genèse qui ordonne en coupant et en différenciant les éléments d'un chaos originel, la parole joannique de cette communauté joannique enfante. Elle donne un statut d'enfant de Dieu à ceux qui la reconnaissent comme fondatrice de leur vie. Ce n'est donc pas un ordonnancement, ce n'est donc pas une œuvre de coupure et de différenciation, mais une œuvre d'engendrement. Pour cette communauté rejetée par le judaïsme de son époque, interdite de synagogue par les nouveaux maîtres de la loi, les pharisiens, la question se pose de savoir quel statut messianique peut avoir Jésus après le schisme qu'il a généré au sein même du judaïsme. Dans le prologue, il est dit, comme Jésus lui-même l'a reçu de sa culture juive, que personne n'a jamais vu Dieu. Seule la foi d'un homme et la mise en pratique de cette foi a pu faire voir Dieu à ce monde, le montrer. Non pas avec l'évidence d'une chose offerte au regard, même si la vue dans l'évangile de Jean est centrale, essentielle et toujours rapprochée de la foi, mais c'est la force symbolique de la parole qui va donner à comprendre Dieu dans ce monde. Dieu peut alors se rendre proche par sa parole, non pas annoncée par des prophètes, dont Jean le Baptiste serait le dernier d'une longue lignée, mais par un accomplissement réel dans l'existence humaine elle-même. La parole prend chair, elle devient humaine. Elle n'est pas seulement transmise. Avec Jésus, il n'est plus question de dire la parole de Dieu, mais de la vivre, de l'accomplir au cœur même de l'existence humaine. Et c'est pour cela, précisément, que le monde n'a pas accueilli la parole en son sein, car le monde ne pouvait se douter que la parole de Dieu s'était faite si proche qu'elle habitait le cœur d'un homme, né et mortel, comme tous les autres hommes, un simple homme dans sa finitude. Comment comprendre que ce qui excède l'homme, ce qui le crée, ce qui fait de lui un homme et non pas une chose inanimée, ce qui lui donne son origine, puisse être contenu dans la finitude d'une humanité comme les autres. C'est ainsi que le prologue de Jean explique le rejet de Jésus et sans doute aussi le rejet d'une communauté de croyants qui a élevé Jésus au rang de Dieu grâce à cette parole. Le prologue de Jean nous plonge dans l'extraordinaire capacité de la parole à renverser les ordres habituels. Son pouvoir de conversion. Le prologue renverse le temps chronologique pour nous initier au présent de l'éternité. Il renverse l'ordre aussi de la filiation pour nous emmener vers la vie éternelle. L'engendrement dont il est question ici n'est pas pour mourir, mais pour vivre éternellement. En effet, si la parole est en arché, c'est-à-dire avant le temps, dans le magma d'avant le temps, avant que le temps soit compté, avec cette liturgie en 7 jours, alors la parole est hors du temps et relève de l'éternité, de quelque chose qui nous précède et qui sera après nous et qui peut être en nous et nous transformer. Et si la parole qui nous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu, si c'est elle qui nous donne ce pouvoir, alors elle nous fait entrer dans une dimension où la génération n'a plus du tout le sens chronologique de naissance vers la mort, mais un sens symbolique. D'ailleurs, le texte grec ne parle pas de pouvoir en tant que dynamis, mais en tant que exousia. Il ne s'agit donc pas de pouvoir ou de force, mais d'autorité. La parole reçue par l'homme, qui donne donc une autorité par une sorte de mandat, l'autorité d'un enfant de Dieu. Cette parole est reçue par l'homme et lui donne une nouvelle existence. C'est donc plus un statut qu'une nature. Jésus est donc dans cette autorité qu'il a reçue de Dieu. Et c'est sa parole qui lui permet d'habiter ce statut particulier. Ainsi, quand Jésus parle avec autorité, il révèle l'origine même de la parole qu'il proclame. Il ne la crée pas à proprement parler, il la transmet par sa vie même, il l'incarne. On pourrait s'étonner de la place de Jean le Baptiste dans ce prologue. En effet, n'est-il pas lui aussi un homme qui parle avec autorité? N'a-t-il pas annoncé la parole de Dieu comme Jésus? N'a-t-il pas lui aussi reçu les paroles prophétiques, notamment Ésaïe, qu'il transmet à son tour au bord du Jourdain? Ne serait-il pas un concurrent à Jésus? Il est maintenant pratiquement certain que le prologue de Jean a d'abord existé sans les deux incises sur le Baptiste. Elles ont été ajoutées après coup, on a voulu parler de lui, sans doute pour distinguer l'autorité des deux hommes qui avaient dû faire école tous les deux, après qu'une mort violente les ait élevés tous deux au rang de martyrs. Si l'on retire les deux versets sur Jean le Baptiste, le prologue semble reprendre son unité littéraire et poétique, comme si de rien n'était. Les mentions qui mettent en scène Jean en témoin de la lumière ou encore criant « Celui dont j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était », tranche avec la rédaction bien scandée du reste de l'hymne. Et c'est là que l'on s'aperçoit que c'est un ajout. Mais elles sont maintenant là, ajoutées en miroir dans les deux parties de l'hymne, et elles nous sont parvenues. Il faut donc bien les prendre en compte. Cette mention du Baptiste pose le problème suivant. Quelle différence entre un homme comme Jean et un homme comme Jésus? Le Baptiste purifie dans l'eau du Jourdain ceux que le péché sépare de Dieu. Il apporte donc le salut. Il meurt de la cruauté d'un pouvoir politique et religieux qui a peur d'un homme dont la foi sans compromission fait autorité. Jésus, lui, annonce les paroles de salut aux exclus de la religion de son temps. Il meurt par la même cruauté d'un pouvoir politique et religieux, comme Jean le Baptiste. Et ce même pouvoir religieux a eu peur de son autorité aussi. Alors en quoi Jésus serait-il plus le Fils de Dieu, le Fils unique, le Dieu-Fils unique, dit le prologue, qui est sur le sein du Père? Pourquoi lui et pas Jean? La foi de la communauté johannique, c'est que Jésus n'est pas seulement un témoin de la parole de Dieu qui a transmis des paroles, mais c'est la parole de Dieu incarnée. C'est-à-dire qu'il a rendu proche la parole de Dieu et qui lui a donné une dimension humaine incontestable. D'autres, avant le prologue, avaient déjà personnifié, par exemple, la sagesse, comme dans le livre du Siracide, où la sagesse parle en disant « je ». Ni les auteurs juifs, ni les auteurs grecs ne rechignaient à personnifier le logos, la parole, pour montrer son action et sa puissance. Mais c'était toujours comme une sorte d'allégorie, de façon plutôt générale et abstraite. La communauté johannique va personnifier cette parole. Le logos, le verbe créateur, va devenir quelque chose que l'on va appeler Jésus, Christ. Ainsi, ce n'est plus seulement une allégorie, une représentation de quelque chose d'abstrait par une personnification, mais cela va être une personnalisation. Jésus-Christ va devenir cette parole. Cet homme aura ce nom et cet attribut particulier d'être le Christ, celui qui est oint par Dieu. Quand dans Jean le Baptiste la parole se transmet, dans le Christ elle s'accomplit, en sauvant la chair de sa chute. Ce n'est pas une annonce du salut, c'est le salut lui-même qui est là. Il ne s'agit donc plus de porter une lumière en soi. Il ne s'agit donc plus de témoigner d'une parole reçue comme si elle ne nous appartenait pas. Il s'agit de l'incarner en digne descendant de Dieu, enfant de Dieu, enfant né de Dieu lui-même, trouvant ainsi une nouvelle origine à nos vies. Dans la culture juive de Jésus, l'engendrement est une bénédiction. Et c'est même l'accession à l'éternité. Pour tous les patriarches, il leur est toujours promis une grande descendance. Mais par les générations successives, ces patriarches pouvaient espérer être éternellement vivants dans le peuple de Dieu. Et donc, vivants de façon chronologique, de génération en génération. Dans la culture grecque, et notamment la culture platonicienne, c'est plutôt le détachement du monde et de ses pesanteurs qui permet d'accéder aux vérités éternelles, se libérer de la chair, ne plus être contraint par les limites de l'homme. Et c'est cela qui permet d'atteindre l'éternité. Pour le prologue de Jean, il s'agit de faire la synthèse entre ces deux cultures. La génération des enfants de Dieu est pensée ainsi. Une libération des pesanteurs du monde, un autre ordre en quelque sorte, mais tout en étant dans l'engendrement et dans la bénédiction de la génération. Le chiasme entre les vérités éternelles et le monde des hommes temporels se résout ainsi dans une nouvelle naissance, celle des enfants de Dieu, réconciliés entre leur finitude et la grandeur éternelle divine. Alors, au seuil de cette nouvelle année, la question pour nous n'est pas de savoir si notre passé peut éclairer notre avenir, si 2019 sera illuminé par la lumière que nous aurons pu tirer de l'expérience de 2018. La question n'est plus une question chronologique, mais une question d'autorité. D'où sommes-nous ? Si j'adopte le point de vue en surplomb sur ma vie pour la relire, je peux me demander qu'est-ce qui fait autorité dans ma propre vie. Et dans le mot autorité, vous entendez auteur. Qu'est-ce qui est à l'origine de ma vie? Qui est son auteur? Est-ce que ce sont mes propres ambitions, mes propres désirs, mes intérêts personnels? Sans doute. Mais est-ce que ces ambitions, ces désirs ou intérêts sont à placer à l'origine de ce que je suis? Est-ce que mon action sera uniquement portée par ceci? Sont-ils en arché, à l'origine de toute chose, à l'origine de ma vie, avant le temps, dans l'éternité? Quel projet est là pour moi? En d'autres termes, est-ce que toutes ces choses peuvent transcender ma vie? La foi en un homme, Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père, nous donne accès à une dimension symbolique de notre vie. Être de parole, fondé en elle, nous sommes capables de penser notre vie en relation avec du divin. Nous sommes capables de réconcilier en nous les deux versants du même hymne à la parole, humain et divin. C'est ce véritable bonheur que je voudrais souhaiter à chacun de vous aujourd'hui. Le bonheur d'être dans le monde tel qu'il est, sans le rejeter. C'est le nôtre, c'est celui que Dieu nous commande d'aimer. Il n'y en a pas d'autre. Avec la foi en notre capacité reçue de Dieu à transformer ce monde, nous pouvons être porteurs de paroles et de lumière. Par la foi, nous devenons des êtres de parole capables de penser autrement ce monde, autorisés à le rêver autrement, autorisés à repousser la fatalité et la vanité de ce qui arrive pour faire advenir, comme le dit le prologue, la grâce et la vérité. Nous ne pourrons jamais prouver cela à quiconque. Nous ne pourrons pas montrer Dieu en nous, mais notre foi peut le créer en nous. À nous de faire de nos vies, comme Jésus l'a fait de la sienne avant nous, des signes pour ce monde. Cela passera par nos choix de vie, nos recherches de paix, de compréhension, nos efforts de relation et par notre capacité à naître de nouveau avec Dieu. Que cette nouvelle naissance advienne pour nous tous. Amen. Merci à David Cassan pour cette évocation de cette lumière qui vient dans le monde. Je vous invite maintenant à chanter ensemble le cantique 115 dans les louanges et prières, 1, 2 et 3.
Bonjour à chacun. Merci au pasteur Béatrice Cléromazir pour cette prédication qui va être un bon chemin pour l'année 2019, l'année qui vient. Et si vous voulez réagir à cette prédication et discuter avec Béatrice, vous pourrez le faire tout à l'heure à la fin de ce culte, puisqu'il y a un pot d'accueil dans la grande sacristie et que vous pourrez discuter librement avec elle. Puis, si vous êtes comme moi, un peu plus lent à la réaction, bien vous pourrez prendre le texte de la prédication, le relire calmement chez vous et puis réagir par un mail auprès de Béatrice. Après tout, les prédications, c'est fait pour ça, pour un petit peu réagir à ce qui nous est dit ici en chair. Le programme de cette semaine est assez allégé puisque nous avons la soirée de la Saint-Sylvestre en vue. Samedi 5 janvier, je voulais vous dire qu'il y aura la reprise quand même des cours d'hébreu biblique par le pasteur Gilles Castelnau à 10h, salle Verne, donc samedi prochain. Et l'après-midi, vous aurez un concert, il y a un concert d'orgue. Alors attention, changement d'heure pour l'année 2019, car nous serons en 2019, les concerts d'orgue auront lieu désormais le premier samedi du mois à 16h. Donc à 16h, nous entendrons ici l'organiste titulaire du grand orgue de la basilique du Sacré-Cœur de Marseille, M. Christophe Guida, qui donnera donc un concert, bien sûr entrée libre et libre participation aux frais. Le dimanche 6 janvier, c'est le pasteur Gilles Castelnau qui présidera ce culte. Et à l'issue de ce culte, il y aura, bien entendu, comme c'est le premier dimanche du mois, le repas mensuel de la paroisse. Donc, merci pour des questions d'organisation de bien vouloir vous inscrire auprès du comptoir librairie, peut-être dès aujourd'hui, ou de passer dans la semaine un coup de fil au secrétariat. Si on ne vous répond pas tout de suite au secrétariat cette semaine, n'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur. À l'issue de ce culte, pour ma part, j'aurai le plaisir d'aller retrouver nos amis de l'entraide qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils préparent un repas pour 80 personnes pour le Centre social d'action protestante qui est présidé par Antoine Durleman, un de nos paroissiens, et sont des personnes qui donc bénéficient de l'aide et de l'assistance du CASP. Donc nous les recevons plusieurs fois par an et nous allons célébrer un peu par avance la Saint-Sylvestre au cours d'un déjeuner fraternel auquel je me joins avec grande joie. Et puis c'est tout pour les annonces de cette semaine qui arrive. Nous reprendrons le rythme normal à partir de dimanche prochain. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis une bonne Saint-Sylvestre à chacun. Oui, j'oublie l'essentiel. Je vais faire appel à mes collègues du Conseil presbytéral pour passer parmi vous pour recevoir vos offrandes puisque c'est le temps de la collecte. Merci.
Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, crier avec les femmes et les hommes qui sont dans la détresse. avec les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tous les pays. Seigneur, nous te demandons que ton règne vienne. Avec les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les étrangers renvoyés dans leur pays où règne le chômage, avec les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les jeunes inquiets face à leur avenir, avec leurs parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les personnes âgées mises à l'écart du monde actif, avec les malades qui ne voient pas la fin de leur souffrance, avec ceux et celles qui meurent dans la solitude, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec nos amis et nos proches, frappés par l'épreuve, sans que nous sachions toujours comprendre leur peine et leur silence, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Nous te demandons, Seigneur, d'être porteur de parole. Nous te demandons, Seigneur, d'incarner ta parole. Pour eux, pour elles, pour nous-mêmes, nous crions vers toi, Seigneur. Que notre prière se prolonge par des actes, que ton amour illumine nos actions, afin d'apporter à tous un témoignage de paix et un signe de joie dans ce monde. Ensemble, nous te disons, en nous levant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment d'être envoyés dans ce monde tel qu'il est. C'est celui que le Seigneur souhaite nous donner à aimer. Soyez lumière pour ce monde, porteur de paroles. Remerciez pour tout ce que le Seigneur vous a donné. Espérez en lui pour tout ce que vous voulez envisager pour l'avenir. Que le Seigneur soit votre lumière, votre origine, et qui vous donne toute autorité dans ce monde. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce et de toute vérité, nous bénit et nous garde. Bonne éternité à tous.